Musique et développement durable, le débat qui s'est tenu dans le cadre du 4e festival de Ménilmontant n'a rien eu d'une rengaine. Culture France, l'association Bientôt établissement public de rayonnement de la culture française à l'étranger, avait fait appel à la compétence de faire playlist pour une tournée au Népal avec le groupe Trio et l'explorateur Christian Clot. Une première pour faire playlist et pour le développement durable.
Musique et développement durable, deux approches, deux pratiques qui ne s'affrontent pas mais se complètent. D'un côté, musique et environnement, le bilan écologique, le bilan carbone d'une tournée, et musique durable, la défense de la musique d'auteur, le fameux quatrième pilier du développement durable. Mais avant toute chose, se rappelle Bruno Gérantès, le manager du groupe Trio.
L'industrie du disque est un petit univers financier. On donne toujours l'exemple, parce qu'il est parlant, toute l'industrie du disque, c'est à peu près un gros carrefour ou un gros champ dans une... Je ne parle pas d'une petite unité, mais d'une grosse unité. Donc il faut ramener les choses à leur juste dimension. Ce n'est pas un très gros secteur, ce n'est pas un secteur qui a énormément de moyens, même si à travers la parole des artistes, à travers ce que représente l'artiste, ils ont évidemment une place publique beaucoup plus importante que ce qu'ils représentent économiquement.
Pour le groupe Trio, c'est clair, il s'agit de maîtriser son bilan carbone, Bruno Gérantès.
Tel que nous le voyons, c'est d'abord les initiatives que nous pouvons prendre à notre niveau en tant que groupe dans notre propre organisation pour essayer d'améliorer nos bilans carbone.
Jusqu'y compris d'apporter vos machines à laver la vaisselle au Zénith.
Oui, c'est des mesures en fait, surtout qu'on essaie de vouloir concrètes et réalistes. Alors après, effectivement, on n'a pas vocation à amener nos machines à laver sur tous les Zéniths parce que ce n'est pas notre boulot. On espère qu'en l'ayant fait une fois, peut-être que d'autres artistes vont le faire, surtout que les Zéniths s'y mettent tous. Donc c'est simplement ça. Maintenant, on fait avec les moyens qu'on a, on essaie de faire au mieux pour notre propre tournée.
Vous, c'est vraiment le bilan carbone qui est synonyme de musique et développement durable ?
C'est-à-dire que moi, je m'en tiens à une définition stricte des termes. Développement durable, alors c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus entre développement soutenable ou environnemental. En fait, c'est un peu les deux termes du débat. Jusqu'à maintenant, nous parlons développement par rapport à l'environnement, puisque c'est là où on est effectivement émetteur de carbone et qu'on a quelque chose à faire. Donc c'est en ce sens-là qu'on l'entend. Et culturel, effectivement, nous on l'entend culturel au sens de la musique, puisque c'est dans ce domaine-là qu'on est acteur et pas ailleurs.
Rien d'incompatible, en l'occurrence, avec la culture, quatrième pilier du développement durable. Encore faut-il que ce soit viable. Gilles Mordant, créateur et directeur de Faire Playlist.
Il faut espérer que ça soit viable. Pour l'instant, nous, on expérimente différentes petites choses sur la production, la diffusion, tout au long de la filière et comment on peut faire de la musique aussi, parce que c'est pas simplement la produire. Et puis, on se rend compte quand même qu'il y a une certaine évolution, enfin, à l'UNESCO, puisqu'on commence de parler de commerce équitable pour la culture. Donc c'est plutôt une bonne idée. Après, est-ce qu'on sera capable, enfin là je dis on, mais je veux dire l'industrie de la musique sera capable à revenir à des choses plus artisanales, enfin ça c'est mon avis, il me semble que l'artisanat est durable et l'industriel, j'ai un doute quoi sur la durabilité de l'industrialisation. Donc on a vu les bienfaits pendant certaines périodes de ce qu'était l'industrialisation. On voit aussi les dégâts que ça fait.
Petite ambiguïté, le téléchargement et Internet en général n'est pas forcément écologique. Et puis, iTunes, par exemple, a un certain monopole en la matière, mais là non plus, pas seulement, Gilles Mordant.
À savoir que c'est aussi le cas en Afrique. Les musiciens n'est pas là avec lesquels on a débattu. Non seulement font donc des pochettes avec leur grande tradition de fabrication de papier, puisque c'est des grands fabricants de papier, fait main, etc., artisanalement, mais aussi passent par la téléphonie, parce que eux, c'est le seul moyen de diffuser leur musique, puisque, bon, on est passé, en Afrique, de la cassette, mais on n'est pas vraiment passé au CD. Après, l'Internet, c'est compliqué, parce que coupure d'électricité, donc, voilà. Et donc, là, c'est la téléphonie. Alors, là, il y a un vrai souci, parce que pour citer le Népal, 50%, alors qu'est-ce qu'il nous avait dit, ouais, il y avait ce rappeur très célèbre d'ailleurs au Népal, qui, j'étais très surpris d'ailleurs qu'ils connaissent tous les chiffres comme ça, nous a dit que sur 14 centimes d'un téléchargement, 7 centimes revenaient à l'État, donc 50%, puis une répartition classique après sur les autres éléments, et donc presque plus rien pour l'artiste. Il y a énormément de travail encore à faire, et puis surtout, je crois, le plus gros travail à faire est sur l'information, que la culture n'est pas gratuite. Ce qu'on veut essayer de nous faire dire, ce qu'on nous dit tous les jours, que la culture est gratuite. Non, la culture n'est pas gratuite.
Que la culture soit payée parce qu'elle est faite par des gens au même titre que le pain.
Ça a un coût, c'est des gens qui travaillent. Voilà, quoi, c'est ça, je pense qu'il faut que nous, au sein de Fair Play, on essaie de défendre.
Que la culture soit rémunérée et que cela cesse d'être choquant, c'est le gage de sa durabilité et de celle d'une certaine qualité de pensée. Le groupe Trio, lui, a associé son développement durable environnemental avec Greenpeace, un choix bibou. L'homme a tout faire dans le bon sens du terme du groupe Trio.
Le groupe existe depuis 15 ans, plus de 15 ans maintenant. Non seulement donc, on collabore avec Greenpeace en vue d'action, on va dire, politique en haut, et à côté de ça, on a décidé avec le groupe de mener une action concrète sur notre dernière tournée, même sur notre dernier disque, sur toutes les actions qui ont concerné notre dernier album, partout où on pouvait agir. Tout d'abord, des transports au niveau, le maximum de trains pour la partie préparation d'enregistrement du disque. Ensuite, le disque en lui-même est entièrement en papier FSC, recyclé ou source mix. Enfin, on va passer dans des problèmes techniques, mais en tout cas avec une manière raisonnée. Toute la communication, les affiches ont été faites sur du papier également durable, en tout cas avec une gestion de forêt gérée durablement. Donc toute la partie disque. Et ensuite, au niveau de la tournée, donc sur la première partie de la tournée, on a fait notre bilan carbone de la tournée. Alors, chose très importante, avec l'aide de Greenpeace notamment, on a mené une enquête auprès de plus de 100 000 personnes. Peut-être que j'ai une bêtise, peut-être plutôt au niveau... une enquête auprès de plus de 15 000 personnes.
Comme on dit, il y a les chiffres de la préfecture et puis il y a les chiffres des gens qui manifestent. Allez.
Là, c'est la fatigue et la mémoire, tout simplement. Je vous dis, c'est qu'on on a une enquête excessivement précise. Je crois qu'on a fait, on doit être le... On est le seul groupe français à avoir fait le bilan carbone à ce jour. Et grâce à l'appui de Greenpeace, on a vraiment des résultats très, très précis. Et donc, sur la première partie de la tournée, donc, on a fait notre bilan carbone. Ensuite, on en a tiré les conclusions, on a analysé les chiffres, etc. Et on a mis en place, pour la deuxième partie de la tournée, plein de choses d'action en vue de réduire notre émission de carbone.
Oui, parce que en fait, ce qui coûte le plus en carbone, c'est le public.
Exactement. Il y a deux grands postes facilement compréhensibles, c'est les transports et les déchets. Et effectivement, entre les artistes qui sont 5, 10 sur scène et le public qui est entre 3 et 10 000 personnes devant, on s'aperçoit que la proportion d'action, elle est beaucoup plus efficace si on l'amène au niveau du public.
Artistes, public, grand public, la récente tournée au Népal organisée par Culture France, première collaboration du genre avec Fair Playlist, a permis de sensibiliser le public népalais à l'environnement. Christian Clos, scientifique et explorateur.
L'idée, c'était de participer à des tables rondes scientifiques pour essayer de vulgariser un message scientifique auprès d'une population qui ne connaît pas forcément toutes les idées sur la glaciologie, sur les particules qui se déplacent, enfin toutes ces notions qui sont finalement très abstraites et qui pourtant touchent les citoyens tous les jours, puisque on voit à Katmandou tout le monde qui marche avec des masques, c'est parce qu'on a une pollution carbone lourde qui se crée de particules. Et le constat, par exemple, c'est que dans les glaciers du Khumbu, en raison des courants, on a pratiquement autant de particules durant la journée que dans certaines régions de Katmandou. Donc, expliquer tout ça à la population au travers de tables rondes scientifiques qui se sont jointes à Planète Népal, puisque Planète Népal, c'était un festival d'art et d'environnement.
Il fallait un petit peu y aller aussi pour inoculer l'écologie auprès de certaines personnes.
Alors inoculer, oui, c'est peut-être un mot fort, en tout cas essayer de leur faire prendre conscience que tout n'est pas forcément aussi simple que ça, que tout ne vient pas d'ailleurs, qu'eux aussi sont acteurs de tout ce mouvement global aujourd'hui environnemental, mais qu'effectivement, nous, pays occidentaux, on a une responsabilité envers eux. Tout ça, il faut leur expliquer. Et puis ensuite, moi je reste persuadé que la musique, l'art, est une des meilleures manières aujourd'hui d'essayer d'inculquer des messages environnementaux, tout simplement parce que ça touche le cœur, ça touche des notions beaucoup plus subtiles que d'arriver avec des messages « ne faites pas ci, ne faites pas ça, on distribue les bons points, les mauvais points », tout ça, ça ne sert plus à rien. Je crois qu'on ne doit pas taper sur les gens, on doit essayer de leur expliquer des choses, leur donner l'amour de leur milieu, de l'environnement où ils vivent, et l'amour, ça passe entre autres par le cœur, donc par l'art.
Le rayonnement de la culture et le rayonnement du développement durable à l'étranger, C'est tout l'art de Culture France, l'établissement bientôt public rattaché au ministère des Affaires étrangères. Gaëlle Matsikobiti.
Alors, ce sont des notions qui sont nouvelles pour nous, donc on n'a pas, réellement de programme en tant que tel, mais c'est vrai que nous, on se fait fort de suivre un petit peu, entre guillemets, les tendances et d'avoir aussi une vraie réflexion avec les opérateurs et les professionnels français qui mènent ces réflexions. Donc, ce sont des choses qu'on va évidemment de plus en plus mettre en avant, et c'est vrai que l'exemple de ce projet Planète Népal, ça nous a vraiment fait réfléchir et justement de pouvoir aussi mettre des gens en connexion qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer. C'était le cas par exemple de cet explorateur Christian Clos qui nous apporte aussi un regard assez nouveau sur ces choses-là et de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Donc ce sont des thématiques que l'on va évidemment développer de plus en plus.
Musique et développement durable, la musique se fait évidemment porteuse de messages.
Pour moi, la musique est un des meilleurs vecteurs parce qu'une pièce de théâtre, on a de la peine à l'amener à l'étranger de par la langue. Alors que la musique, ça peut être direct. On voit Trio à Katmandou qui chante des chansons en français et qui pourtant touche des milliers de personnes. Donc c'est un vecteur idéal. Et c'est pas toujours évident parce que tous les artistes ne sont pas aussi engagés que des groupes comme le Centrio et quelques autres.